En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.
La lionne allie vitesse et puissance. Dans la savane, elle est reine en son royaume.
Bonjour, c'est Karine Claire, bienvenue sur Triangle. Vous écoutez Les Lionnes, un podcast sur les femmes qui ont fait ou qui font bouger la Belgique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des femmes et du sport en Belgique, avec la footballeuse Aline Zeller et la réalisatrice Anne-Françoise Leleu.
La femme du XXe siècle est active dans bien des domaines que la tradition réservait autrefois aux hommes. De nos jours, de nombreuses femmes s'arrangent pour satisfaire à leurs devoirs de ménagère tout en participant activement à la vie sportive.
Les Lionnes, Karine Claire sur Frixville. Pour ce troisième épisode des Lionnes, j'ai choisi d'aborder la thématique du sport au féminin en Belgique avec deux femmes fonceuses, courageuses et perfectionnistes, des femmes fortes, indépendantes, intelligentes et qui ont fait ou font bouger les choses grâce à leur technique, à leur savoir ou à leur persévérance. Nous allons aujourd'hui parler ensemble de sport féminin dans notre petit royaume, en partant à la découverte des premières sportives belges, et aussi évidemment de celles qui, comme vous, Aline, font notre sport aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre ce qui fait une sportive, comment ça se construit, quels sont ses moteurs, ses forces. Et puis de voir qui sont les premières Belges à avoir osé se lancer dans le sport. Nous aborderons inévitablement la question du genre et du sexisme dans le sport. Et nous essaierons de voir comment cela a évolué depuis ces balbutiements, des moyens qu'on donne aux sportives, de leur médiatisation, de leur passion. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de sport. Aline Zeller, bonjour. Vous êtes une incontournable dans le milieu du foot féminin belge. 9 titres de championne de Belgique avec 3 clubs différents, capitaine des Red Flames, l'équipe nationale féminine belge lors de l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Vous êtes la première joueuse de football, hommes et femmes confondus, à faire son entrée dans le Hall of Fame, que la Pro League vient tout juste de lancer, on en parlera tout à l'heure. Et vous vous consacrez aujourd'hui à la professionnalisation et au développement du football féminin en Belgique. Anne-Françoise Leleu, bonjour. Vous êtes réalisatrice, sensible depuis toujours à la question des genres ou des préjugés sexistes, comme dans le très chouette documentaire À la recherche du prince charmant. Et vous êtes détentrice d'un master en études de genre avec un mémoire sur la représentation des sportifs de haut niveau dans le milieu du tennis et du football dans les médias. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et puis nous dire pourquoi le sport, Aline ?
Voilà, donc bonjour Karine, bonjour Anne-Françoise. Pourquoi le sport et pourquoi le football ? Donc tout simplement parce que voilà, actuellement j'ai eu récemment 39 ans et j'ai commencé le football à l'âge de 6 ans dans ma belle province du Luxembourg. Un peu par hasard, puisque mes voisins, j'étais entourée de garçons et mes parents étaient fermiers, donc étaient toujours occupés à travailler ou à s'occuper de ma petite sœur. Et donc moi, je pense que très tôt, j'étais déjà un peu, comme on appelle maintenant, hyperactive ou ADHD, qui sont des mots forts pour le moment, mais qui finalement ne doivent pas faire peur. Donc j'étais un enfant qui avait besoin de bouger. Et le seul sport dans le village, c'était le football. Donc voilà, j'ai commencé très tôt avec mes copains du village.
Et puis, ça s'est passé comment
Ça s'est passé, donc le président du club voyait bien que je venais soutenir mes copains chaque samedi. Il a dit, pourquoi tu joues pas? Finalement, tu viens quand même. Je dis, donc déjà à 6 ans, on me met déjà une question comme ça. Assez forte, et je dis, mais il faut voir avec mes parents, parce que mes parents n'étaient pas du tout sportifs, donc le sport, on ne sait pas ce que c'est dans notre famille, on connaît juste le mot travail. Et puis, c'est passé correctement chez mon papa, il a dit simplement que quand tu as un âge où tu dois travailler à la ferme, ben, c'est d'abord la ferme et puis après le sport. Donc, je pense que ce soit fille ou garçon, c'était le mot d'ordre chez nous, c'était d'abord le travail avant de s'amuser par le sport, si on peut expliquer ça comme ça. Et puis, j'ai grandi dans une famille, donc j'étais toujours dehors et j'étais toujours en train de faire du football et à travailler. Et puis j'ai fait ma carrière, j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, c'était obligé de rejoindre un groupe de filles parce qu'il n'y avait pas de règlement qui était vraiment bien dessiné. Donc finalement, là, à Bruxelles, on disait oh, une fille doit jouer jusqu'à 14 ans, mais on était dans Luxembourg et personne ne venait contrôler. Donc j'ai fait un an en plus et finalement, on n'en a pas souffert. Et puis après, j'ai joué avec des femmes. C'était quoi ? C'était des dames qui avaient déjà... J'avais 15 ans, elles avaient 30, 40 ans. C'était des équipes récréatives. Donc je l'explique aussi dans mon livre. Est-ce que ça fait aussi le transfert entre un groupe d'amis de son âge et puis de jouer avec des personnes plus âgées ? Et puis de son sexe aussi, puisque c'était différent. C'était aussi toutes des mamans. Parce que c'était toutes des femmes qui finalement auraient voulu commencer le football aussi à 6 ans et elles ont fait leur pratique quand elles ont eu leurs enfants. Et quand dans les années, le football féminin a évolué, comme on va en parler, c'était leur rêve et finalement elles le faisaient très tard. Donc je pense que j'ai rencontré énormément de dames comme ça qui encore maintenant reviennent sur ma carrière et disent « Oh, si j'avais eu... la chance comme toi », mais je dis ouais, chacun à son époque. Encore actuellement, mes anciennes coéquipières vont à l'Euro dans 2 semaines et on voit qu'il y a beaucoup plus de moyens qui sont développés. On me dit tiens, t'es arrivé trop tôt ou trop tard. Je dis je suis arrivé au bon moment pour développer mon sport. Faut pas chercher toujours pourquoi et il faut vivre avec son temps.
Et vous racontez toute votre expérience dans un livre que vous avez sorti l'année dernière.
Oui, donc j'ai arrêté ma carrière officiellement en 2020, 2019, et comment je voulais mettre ça sur papier, parce que je pense que, ce que moi j'ai vécu, c'est il fallait le raconter. Déjà, donc le football féminin de A à Z, il y a déjà mon nom qui est un peu repris dedans, donc ça marque assez bien les esprits. Je pense qu'à côté, j'étais un team player sur le terrain pour l'équipe nationale, mais dans chaque équipe où je suis passé ou dans chaque club, je pense qu'il y a énormément de valeurs qui sont restées en tant que personne et en tant que sportif. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre sur un papier.
Est-ce que je peux vous poser une question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, Les Lyonnes ? Quel est le verbe qui vous drive, le verbe qui vous conduit depuis votre enfance ?
S'amuser. Le mot jouer ou s'amuser, maintenant je suis passée comme coach et j'aime bien faire transmettre. Voilà. Je suis aussi pédagogue, hein, je suis enseignante en éducation physique de formation. Donc le tout s'attachait bien dans ma carrière en tant que joueur, être le relais entre le coach et les joueuses. Et puis je trouve ça super de coacher et de former les jeunes. Mais le mot jouer et s'amuser et la joie dans tout ce que tu fais, ça m'a drivé. Et le faire à fond. Donc, quand on vient chez moi et que je fais la vaisselle ou je passe l'aspirateur, les gens disent « mais tu t'amuses avec tout en fait ». Ben je dis « ben oui, parce que de toute façon, on doit faire plein de choses ». J'ai du mal à déléguer parce que je suis très vite mécontente parce que j'aime bien que le truc soit bien fait aussi. Donc je fais aussi tout moi-même. Mais voilà, j'y trouve du plaisir et puis voilà, je suis toujours enthousiaste. C'est très rare qu'on me voit très négatif, quoi. Donc ça, c'est positiver et jouer. Ce sont les deux verbes.
Merci. Anne-Françoise Leleu, alors est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et puis pourquoi le sport, finalement, dans cette étude, pourquoi le sport ?
Je m'appelle Anne-Françoise Leleu. Bonjour Karine, bonjour Aline. Moi, j'ai pratiqué beaucoup de sport aussi quand j'étais jeune. J'ai commencé avec le foot à l'école. Ça n'a pas trop été bien apprécié. Et donc, c'est vrai que on m'a même interdit à partir d'un certain âge de pratiquer le foot et je me suis dirigée vers la danse au départ classique et qui correspondait probablement mieux au modèle de l'époque. Et c'est vrai que à travers la danse, j'ai trouvé une discipline aussi. Autant avec le foot, j'aimais bien le côté de la discipline d'équipe. Et autant dans la danse aussi, mais il y a quand même il y a quelque chose assez individuel aussi et individualiste. Mais j'ai retrouvé quand même les fondements, je pense qu'ils sont propres à tous les sports. C'est une rigueur, des exercices tous les jours. Enfin, il y a un côté travail de fourmi, une volonté et effectivement quelque chose qui nous drive, qui nous tire vers le haut et qui nous apporte une joie, un plaisir. Et par ailleurs, c'est vrai que je suis maman et j'ai vu ma fille aussi évoluer dans différentes disciplines et elle s'est attachée beaucoup plus au foot. Elle en pratique toujours aujourd'hui, elle a 20 ans. Et c'est vrai que j'ai vu à travers son parcours tout ce que... Les résidus, on va dire, de certains interdits que j'avais pu vivre moi-même.
Et même question que pour Aline, quel est le verbe qui te drive ? Qu'est-ce qui te meut ?
Mais moi, tout de suite, je pense à agir, justement, par le mouvement. Agir parce que se mettre en action, c'est c'est toujours découvrir quelque chose. Et derrière le mot agir, je pense à l'intention, au moteur, c'est la curiosité. J'ai toujours envie, ce qui me drive, j'ai toujours envie de connaître ce qu'il y a derrière un mur, ce qu'il y a derrière une porte, ce qu'il y a derrière une personne. C'est le moteur des gens et donc c'est quelque chose de fabuleux, toujours de se lever le matin et se dire tiens, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui.
Découvrir.
Ouais.
Elles sont 3000 affiliées officielles à pratiquer le football en Belgique et pourtant, il faut bien le dire, elles ne connaissent pas encore les faveurs du public. Il y a pis, beaucoup vont jusqu'à regarder la prestation de ces demoiselles d'un œil goguenard. Nelly Malaise, membre de la commission féminine de football, nous explique les raisons de cette attitude intolérante.
Premièrement, oui, ils n'ont jamais vu un match. Et comme toujours en Belgique, on discute beaucoup des choses qu'on ne connaît pas. Et deuxièmement, ils n'ont jamais vu un bon match.
Pour améliorer le niveau du football féminin, qu'est-ce qu'on doit faire ?
La première chose, pour moi, c'est d'engager un bon entraîneur. Parce que tout est là. Nous en sommes toujours à nos débuts. La deuxième chose, c'est de faire un travail de profondeur et de faire des équipes de jeunes. Et alors c'est pour ça que le comité exécutif a décidé de faire, comme en France, comme en Italie, de faire jouer des pré-minimes, c'est-à-dire des petites filles qui ont entre 8 et 10 ans, et de les faire jouer avec les garçons. Après 10 ans, à ce moment-là, on espère qu'elles auront pris goût au football et on créera des équipes de jeunes.
Oubliez vos préjugés, la passion du foot n'est en aucun cas un monopole masculin. Sinon, pourquoi jouerait-elle ?
C'est ma famille, parce que mon grand-père est fondateur du club de l'Étoile de Menton.
Et les autres, le goût du football ?
Ce sont les parents.
Est-ce que vous n'avez pas peur d'être ridicule quand vous jouez au football ?
Non.
En France, on ne rit pas de vous. Là,
les hommes ne sont pas ridicules pour jouer au football.
Non.
Vous vous sentez ridicule, vous ?
Ah non.
Ah non, je ne vois pas si c'est un football féminin se passe entre femmes. On ne se mesure pas des hommes. J'ai fait 12 ans de basket, je ne me suis pas senti ridicule pour faire du football, la même chose.
Si on dit telle fois, vous êtes des garçons manqués.
Ben, c'est vrai, ça ? Il y a des hommes manqués aussi. Hein.
Oui, oui. Mais des garçons manqués.
C'est pas vrai ?
Des garçons manqués, oui, mais on n'a pas l'occasion de jouer avec des femmes, nous. Hein.
Eh oui, mais voilà, exactement.
Mais quand vous étiez petite, vous jouiez plus avec des garçons ou avec les filles ?
Oh, on a des copains, hein. On a des copains, des maris, des fiancés.
Et... Mais étant petite, pour apprendre à jouer au football, il fallait nécessairement jouer avec les garçons ?
Oh, pas nécessairement, non. Il y a des filles qui sont très douées, elles ont moins de force, mais techniquement, elles ont peut-être plus d'intelligence.
Alors, quelles sont vos réactions par rapport à ce que nous venons d'entendre ?
Donc, moi, les deux personnes qui ont été interviewées, ben, je les ai rencontrées durant ma carrière. Donc, la première personne, c'est Nelly Malaise, qui pendant quelques années a été la présidente du Standard féminin. Donc, c'était un matricule autre que le Standard de Liège homme. Donc, cette équipe du Standard a commencé par une équipe de basketteuses. Et alors, petit à petit, ils ont changé de sport. Et ils ont même été transférés. Donc, une personne très connue qui est Ferriana Ferraguzzi, une Italienne qui était internationale. Et donc, petit à petit, le Standard a commencé à écraser un peu tout sur son passage en Belgique et à prendre les premiers titres en Belgique. Et donc, la deuxième personne, si je me souviens bien, c'est une Française donc, qui gère un tournoi international à Menton, dans le sud de la France. Et là, j'ai joué aussi 4-5 ans avec le Standard, où j'ai eu chaque fois le trophée de la meilleure joueuse du tournoi. Et donc, on voit que dans les années 80, il y avait déjà des acharnés et des femmes féministes au niveau sport qui revendiquaient leurs droits. Mais il faut beaucoup de caractère parce qu'on entend, on les mettait déjà sous la pression. Vous êtes des garçons manqués. Et, ben non, c'est juste parce que les mentalités nous voyaient comme ça. Donc, je veux dire, c'est parce qu'on était en France et en Belgique et dans les pays scandinaves, je reviens toujours avec ça. On parle même pas de garçons manqués. Chacun fait le sport qu'il veut. Dès qu'il voit le jour, les filles et les garçons ont le même droit. C'est juste que dans nos pays européens, c'était pas ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un extrait qui provient du JT qui date de mai 1980. Enfin voilà, est-ce que ça a quand même un peu évolué, j'espère ?
Ben oui, au niveau des représentations, justement, rien que dans la manière de questionner les sportives. Enfin, je veux dire, la première question, c'est vous vous sentez pas ridicule, comme s'il fallait déjà, et déjà, elles doivent se justifier. Ben non, pourquoi, comment ? Donc, toujours renvoyé à la référence, hein, et entre autres, garçons manqués, c'est quand même terrible, parce que c'est comme si elles avaient manqué quelque chose. Et j'adore sa réponse.
Oui.
Elle est fabuleuse. Enfin, elle est fabuleuse, cette réponse.
La gloire vole vers la vie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, le monde du sport vit un drame. En effet, l'équipe nationale de ballon, notre équipe nationale, notre grande équipe nationale, vient de disputer 27 matchs. Et le résultat, tout le monde le connaît, ce sont 27 échecs. Et je suis allé chez les frères Bonnel, les vedettes de cette équipe, pour leur demander une explication. Pourquoi ce drame? Pourquoi ces échecs?
C'est-à-dire, c'est qu'on a, joué sur un terrain qui était peut-être un peu lourd, hein. Peut-être un terrain un peu gras.
Hein. Le terrain est très gras.
Le terrain était assez gras.
Quelles sont, à vos yeux, les qualités essentielles d'une sportive, Aline? Quels seraient les adjectifs ou les verbes qui seraient les plus parlants?
Il y a deux catégories, sportives de haut niveau, sportives amateurs ou récréatifs. Je pense que dans les deux, je reprends le verbe, hein, donc le plaisir de jouer, de bouger, de découvrir et d'être soit en mouvement tout seul ou soit en mouvement collectif. Donc il faut aussi voir si on est plutôt social ou plutôt individuel, si on sait se motiver tout seul. Ça, c'est important à définir quand on choisit un sport. Et après, il y a le sport de haut niveau où là, c'est vraiment gedreven, hein, il faut vraiment être discipliné. Et je pense qu'il y a un moment dans ma vie, j'étais trop disciplinée pour pouvoir enchaîner, bien sûr, mon job full-time. J'avais deux mi-temps et puis, bien sûr, j'ai jamais su vivre de mon sport. Donc, toujours, mes entraînements se faisaient en soirée, 4 à 5 fois semaine. Et donc, si t'as pas une organisation, tu sais, je dis toujours dans mon livre, il y a une ligne de conduite à suivre. Et si tu veux arriver à un objectif, il faut pas sortir. Et il faut mettre des barèmes, des valeurs. Il faut se lever. Il faut une organisation. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que Anne-Françoise le disait aussi. Le sport collectif, ça attire quelqu'un aussi à. On fait rendez-vous à 6 heures pour aller courir un start run. Si t'as pas ça, t'y vas pas, tu restes dans ton fauteuil, tu manges des chips. Mais voilà, il y a une motivation. Un sportif de niveau, il a la motivation qui a le groupe, mais il y a aussi une motivation interne, donc un objectif. Et ça, c'est le caractère qui est propre à chaque personne. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, ou certaines personnes le développent plus que d'autres, en fonction de ce qui s'est passé aussi dans votre vie. Donc je pense qu'une femme le développe plus. Par rapport à ce que j'ai vécu, parce qu'on doit toujours prouver plus qu'un homme. Et que ça soit dans tous les niveaux, professionnels aussi. Moi, je déteste l'injustice. Mais j'ai dû vivre avec. Et encore maintenant, il y a des trucs que je ne peux pas voir, mais il faut que j'essaye de contourner pour...
Oui, pour atteindre ton but aussi, ouais.
Ouais.
Est-ce que le sport a toujours existé? Quelle était la place des femmes dans le sport, dans l'histoire? Dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, on trouve déjà des représentations du sport, du tir à l'arc, du sport nautique, des courses de chars. Et puis, dans la société grecque, on retrouve les jeux sportifs comme la course à pied, le saut en longueur, le lancer du disque. Et ils occupent une place vraiment importante dans cette société, mais toujours essentiellement masculine. Les premiers Jeux olympiques sont datés du début du 8e siècle, avant Jésus-Christ, en Grèce. Et d'après de nombreuses sources, ils intègrent très rapidement des épreuves pour les enfants. Ça veut dire donc qu'il y avait déjà à cette époque une éducation sportive institutionnalisée qui était chargée de préparer les enfants à ces concours. Les garçons, bien entendu. Les femmes en Grèce pouvaient assister aux représentations sportives seulement si elles n'étaient pas mariées. Ça, c'est quand même... Je trouvais ça assez intéressant. Je ne sais pas pourquoi le mariage, tout d'un coup, fait qu'on ne peut plus assister à une représentation sportive. Enfin, bon, bref. À l'époque romaine, on va être dans une dynamique plus spectaculaire du sport. On aura les jeux du cirque, les courses de chars, les combats de gladiateurs... Et les Romains vont s'entraîner dans des palestres ou dans certains espaces comme les thermes, toujours essentiellement masculins. Mais sous l'Empire romain, les femmes vont investir petit à petit le sport de loisirs. Donc on va trouver des représentations de femmes qui s'entraînent et qui sont assez enthousiastes, à tel point qu'en 117, après Jésus-Christ, l'empereur Adrien doit instaurer des horaires pour hommes et femmes dans les gymnases, parce que cela pose quelques problèmes au niveau des mœurs, qu'ils soient mélangés. Donc c'est, je trouvais ça assez intéressant... Cette histoire de vestiaire, hein, je sais que dans le football, vous avez aussi des problèmes de partage de vestiaire. Alors, au Moyen-Âge, on va trouver des joutes équestres et des tournois de chevalerie. Alors, le Moyen-Âge n'est pas vraiment une période sportive, il n'y a pas vraiment de pratique sportive féminine, mais enfin, comme il n'y a pas de pratique sportive tout court au niveau de l'ensemble des populations, C'est vrai que ni les ouvriers, les paysans, il n'y avait pas de sport. Mais on trouvait quand même des jeux de balles, comme la soule, ou plus tard en Italie le calcio florentin, qui étaient joués par les classes basses, puis à la Renaissance également par le clergé et les nobles. Donc c'était deux équipes masculines qui s'affrontaient. Alors je ne sais pas, Aline, peut-être qu'on pourrait se dire que d'une certaine manière, c'est un lointain ancêtre du football. En tout cas, en lisant les règles, il y a quelques parallèles à trouver.
Ouais, non, tout à fait. Moi, je sais que c'est un peu plus proche de ma génération, mais le football a commencé en fait en Angleterre avec du 11 contre 11. Pourquoi 11 contre 11? Ben, en fait, parce que les internats étaient par étage et il y avait 11 lits et ils jouaient étage contre étage et d'où on a commencé comme ça. De ce que je sais, voilà.
Ah, voilà.
Ouais. En effet,
c'est vrai, pas du tout. Il faudra attendre le XIIIe siècle et le jeu de paume, l'ancêtre de notre tennis, pour voir les femmes et tous les milieux sociaux se prendre d'amour pour cette nouvelle discipline. Alors ça, c'est très très intéressant, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du XVIe siècle, on compte près de 250 salles de jeu de paume à Paris, et pas moins de 40 à Orléans. Alors ça, c'est la folie, ça. Vraiment, les gens de toutes les classes se mettent à jouer au jeu de paume. Hein. Et je lisais qu'ils aimaient tellement ce jeu que parfois, ils abandonnaient même leur travail pour y jouer. À tel point qu'au XIVe siècle, le prévôt de Paris est même obligé d'interdire le jeu de paume, à l'exception du dimanche, parce que sinon, c'est complètement le boxon dans le milieu du travail. Donc, c'est un jeu qui est fondé sur la force, mais aussi sur l'agilité. Et du coup, beaucoup de femmes vont s'y adonner. La plus célèbre est Margot la Hennuyère, qu'un bourgeois anonyme nous décrit dans son journal du XVe siècle.
Margot, assez jeune, comme de 28 à 30 ans, jouait le mieux à la paume qu'onque homme eût vue. Et avec ce jouet devant main derrière, main très puissamment, très malicieusement, très habilement, comme pouvait faire un homme, et peu venait d'hommes à qui elle ne gagna, si ce n'étaient les plus puissants joueurs.
Donc c'est un extrait d'un journal d'un bourgeois de Paris, donc qui parle de Margot la Hennuyère. Alors si Margot est la meilleure dans son domaine, c'est sans doute que ce n'est pas la seule. Il est courant de voir une femme jouer. D'ailleurs, il semble normal que la compétition soit mixte. Hommes et femmes peuvent s'affronter en toute égalité. D'ailleurs, Margot vainc la plupart des hommes. Et en insistant sur cet aspect, le chroniqueur semble nous dire que c'est plutôt rare. Il n'arrête pas de comparer Margot aux hommes. Pourtant, il explique aussitôt son succès. Elle ne se cantonne pas à l'habilité, mais mise aussi sur son sens de la stratégie, sa maîtrise du terrain et sa puissance physique. Je trouve ça assez intéressant de se dire que c'est l'ancêtre de nos grandes joueuses de tennis, Margot la Hennuyère. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler d'elle, mais moi, pas du tout. Avec l'avènement de la société moderne au XIXe siècle, le sport va se professionnaliser. Alors, Anne-Françoise, pourriez-vous nous donner un peu le cadre de l'histoire du sport à l'aube de notre société moderne ? Et puis nous dire quelle place avait la femme dans ce milieu ?
Alors, disons que dès le XIXe siècle, on retrouve des écrits sur la pratique sportive féminine. À l'époque, ils parlent beaucoup de la femme plutôt que des femmes, parce qu'elles sont en quelque sorte mises un peu toutes dans le même bain, c'est-à-dire qu'elles sont rapportées à un éternel féminin, elles sont réduites à une nature, et elles ne sont pas considérées comme des personnes en soi situées, c'est-à-dire les ouvrières, les paysannes, les avocates. On dit qu'elles sont un peu toutes mises donc dans le même bain, une seule femme, et qu'il se doit d'être procréatrice ou épouse, enfin épouse et puis procréatrice. Hein. Donc après la guerre 14-18 et même jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, on assiste donc à une espèce de consensus politique et moral ancré sur un discours assez médical, et ce qui peut-être rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'elle, pourquoi à partir du mariage, elle ne pouvait plus assister ou participer à des compétitions, peut-être probablement à cause de cette idée, souvent médicale, que les organes descendent à cause du sport et que du coup, elle... On encourage l'activité physique, mais pas trop, quoi. Pas de manière intensive, pas de manière professionnelle, parce qu'elles sont des épouses et des futures mères. Et donc, il y a toujours ce but de la procréation, de l'hygiène et un peu de l'esthétique, mais pas comme aujourd'hui, hein, pas du tout. Et donc, on redoute aussi la masculinisation des femmes qui ont travaillé pendant la guerre. Et c'est un peu, à cette époque-là, c'est un peu on voit émerger les politiques natalistes. Donc la femme doit retourner à la maison, refaire des enfants, les baby-boom, etc. Et donc, plus précisément, en fait, les premières sociétés sportives apparaissent début 1900 et elles regroupent quelques femmes de milieux modestes, patronnées par des femmes de notables, hein, et dans un contrôle toujours de la jeunesse, des futures femmes qui doivent être éduquées à être de bonnes épouses et de bonnes mères.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
Et donc dans les années 20, il y a une femme qui a été longtemps invisibilisée, qui est Alice Milia, qui était comptable et compétitrice d'aviron, et qui elle veut développer justement le sport pour toutes les femmes, et donc avec chacune la possibilité de choisir sa discipline, d'en faire ou de ne pas en faire évidemment. Et elle se bat et elle obtient la représentation des femmes en natation, en escrime, en plongeon, en gymnastique, en athlétisme aux Jeux Olympiques de 1928. Mais Pierre de Coubertin, qui est un nom quand même assez connu, qui était ancien donc, directeur du Comité international olympique à l'époque en 1935, il déclare, bien qu'il soit un grand défenseur du fair play, il déclare « Le véritable héros olympique est l'adulte mâle individuel. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Ce qui explique déjà un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce genre de questions, mais vous n'avez pas peur d'être ridicule, parce qu'il y a quand même il y a comme une fondation, on va dire, et Pierre de Coubertin en était un par rapport aux Jeux olympiques, qui était, voilà, ça c'est la femme, elle doit couronner les vainqueurs, elle n'est pas là pour participer. Donc ce n'est qu'à son départ, en 1925, que les sportives entrent dans l'arène olympique, en 1928, aux Jeux d'été, à Amsterdam. Elles concourent pour la première fois aux 100 mètres, 4 fois 100 mètres, 800 mètres et sauts en hauteur.
Amid great controversy, it was decided to allow women to compete in track and field for the first time. Fears were expressed that athletic competition could physically damage the weaker sex. The only track events they were allowed to compete in were the 100 meters, the 4x100 meter relay and the 800 meters.
À partir de 1930, une forte propagande, à nouveau, contre les compétitions féminines, divise les associations et oppose les classes sociales, le sport bourgeois, élitiste, versus sport modeste et émancipateur. Le ski, le tennis, le golf s'inscrivent dans une tradition, on va dire, de sport de riches, tandis que le football, le cyclisme se réclament plus populaires. Et donc l'émergence du sport féminin s'inscrit aussi dans une inégalité de classe, parce qu'on a parlé de l'inégalité de genre, mais aussi dans une inégalité de classe. On retrouve des récits individuels de championnes, mondaines, bourgeoises, aristocrates, mais la majorité, sportive ou non, elle demeure invisible dans les écrits. En 1940, les fédérations féminines sont dissoutes et les sportives passent sous la tutelle des fédérations masculines, sans leur donner évidemment le pouvoir dans les directions. Ainsi, on ne distingue pas de pratiques sportives fortement répandues avant le milieu des années 60. Et même en 1975, les femmes y restent sous-représentées, et même encore aujourd'hui, dans les conseils d'administration.
Il y a 50 ans, vous n'auriez pas pu courir cette course, vous le savez ?
J'en avais aucune idée, non, pas du tout. Pourquoi ?
Parce que les femmes n'étaient pas autorisées à courir.
Ah, ben j'ai beaucoup de chance alors. Et en plus, on est beaucoup de femmes aujourd'hui, donc c'est super. Vous avez plombé l'ambiance.
C'est la révolte.
Donc, on va courir avec 50 ans d'histoire.
Donc, on constate donc que sous couvert d'arguments tour à tour sociaux, moraux, parce qu'il y avait l'Église aussi là-dedans, et médicaux, rester belle et préserver sa famille reste la norme à promouvoir pour les femmes. Alors plus précisément, je ne sais pas si vous voulez que j'aborde ça sur le tennis, c'est en 1870 qu'on voit les premières tennisseuses en Angleterre, puis en France, qui sont aussi des représentantes d'une classe riche et bourgeoise. Alors le tennis est un passe-temps pour les femmes fortunées, le tennis ne doit pas nuire à leur grâce féminine ou à leur beauté, mais on les voit apparaître dans les rubriques de la presse, elles rivalisent d'élégance par leur tenue, et si certaines se montrent excentriques, c'est que leur statut ou leur fortune leur permettent. Et entre autres, je pense à Suzanne Lengen, qui on a de nombreuses photos d'elle dans la presse à cette époque. Et elle était très brillante et elle a participé aux Mondiaux du tennis en 1914.
Suzanne Lenglen, qui fut championne du monde à l'âge de 15 ans et conserva ce titre durant 7 années sans jamais connaître la défaite, s'est consacrée à la formation des futurs champions, de ceux qui regagneront la Coupe Davis.
Alors pour le football, le premier match de football féminin se déroule en France en 1917 avec les équipes de l'association Femina Sport. Et ce premier match connut vraiment un grand succès. Et cette association, ces équipes augmentèrent jusqu'en 1933. Et puis là, elles furent interdites en 1940 sous Vichy, car ces compétitions étaient réputées nocives à la santé des femmes. En 1970, les associations masculines réhabilitent le football féminin pour le mieux peut-être le contrôler, mais elles refusent de le subventionner.
En voilà un autre qui a perdu un duel à la télé face à une femme. C'était en 1984 et depuis, il est abonné au bêtisier grâce à ça.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football...
C'est charmant.
Non, mais c'est vrai. Je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Et je le dis.
Après avoir longtemps souffert de l'absence de politique en faveur de son développement, il est encadré aujourd'hui par la FIFA. Et bon, depuis, il y a eu une augmentation de la diffusion du football féminin et les chiffres ne cessent de grimper.
Merci, Anoise. Alors, justement, on va écouter maintenant un petit extrait de nouveau qui pose une question assez intéressante. Le sport est-il fait pour les femmes ?
Et y a-t-il un sport qui convienne particulièrement à la femme ?
Eh bien, oui, le sport, malgré tout, me semble être la natation en brasse. Sans vouloir faire de longs séjours en bassin natation, car on sait qu'à la longue, il y a une surcharge pondérale, mais ce sont des sports, si vous voulez, toujours tout en esthétique, tout en mouvement, tout en gentillesse. Et c'est à ce moment-là que l'on a, si vous voulez, le meilleur rendement. Mais je me répéterai, c'est la natation, c'est certaines courses, même la course de vitesse. Les sports comme le tennis, bien sûr, même le golf à la rigueur, mais bien sûr, je n'aime pas les sports de combat.
Quelles sont les disciplines qui ne sont pas du tout recommandées ?
Justement, les sports de combat, les sports... J'exclus du sport de combat le judo. Les sports de combat, je dirais plutôt le football. Les sports de contact, je n'ose pas trop les citer. Mais enfin, l'haltérophilie, bien sûr. Et les courses de trop longue distance. Plus si ça l'amuse, elle peut le faire.
Sport, s'agit-il d'une insidieuse galanterie masculine ou bien d'une réalité ?
Il est bien évident qu'au point de vue physiologique et anatomique, la femme a un certain handicap vis-à-vis de l'homme et ses performances ne seront jamais égales. Il n'y a qu'en natation où, du fait de l'eau et de sa meilleure flottabilité peut-être, elle parvient à serrer les performances masculines de près. Mais il est bien évident que sur le plan mental, par exemple, la femme n'a rien à rendre à l'homme. Au contraire, elles sont généralement beaucoup plus assidues à l'entraînement. Elles ont beaucoup de mordant, beaucoup de volonté. Et là, elles sont certainement, sur ce plan-là en tout cas, à l'égal de l'homme.
Alors, comment vous réagissez par rapport à cet extrait donc, qui date des années 70 ?
Ben là, on est en ligne, donc on doit rester poli.
On peut se lâcher un peu.
On est quand même choqué. Hein, donc ouais, mais... c'est simplement choquant parce que de toute façon, il dit par un manque de caractère. On voit vraiment qu'au niveau scientifique, il y avait pas assez de connaissances hein, par rapport au sport et au corps de la femme. Je pense que la femme, elle est faite pour en plus parce qu'elle doit enfanter. Elle a beaucoup plus de résistance que les hommes. Elle sait aussi c'est quoi se faire mal, mais il faut pas parler de l'interdiction des sports de combat. Donc on voit que ça a bien évolué et chance voilà, de faire passer des extraits comme ça. Ça montre vraiment que Ouais, je pense que dans chaque pays, ça a évolué. On parlait, Anne-Françoise parlait de que la FIFA maintenant aide voilà, le développement du football féminin dans chaque pays. C'est pas seulement qu'en Europe. Moi, j'ai vu en Arménie, en Iran, où on arrive aussi. Là, on oublie ces pays-là. On n'en a pas encore parlé, mais là-bas aussi, il y a une grande évolution qui s'est faite peut-être un peu plus vite maintenant les 10 dernières années, mais où là-bas aussi, il y avait encore plus de tabous dans les années 2000. Donc, les textes qu'on entend là maintenant en 1970 en Europe, ils les entendent encore maintenant là-bas.
Oui, bien sûr.
Donc, non, c'est assez choquant, parce que je pensais, je n'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'il y a des dames qui jouaient dans les débuts des 1900 dans les bois, parce que elles aimaient ce sport, mais elles devaient se cacher parce qu'on trouvait que c'était une attraction de voir une femme qui courait avec un ballon ou qui courait avec une raquette à la main. Donc, je veux dire.
Mais c'est clair qu'à cette époque-là, on apprenait à la femme surtout à ne pas trop bouger. Même quand elle marchait en rue, il ne fallait pas qu'elle balance les bras. Enfin, il y avait tout un tas d'injonctions comme
ouais.
ça.
Donc il y avait peu de connaissances par rapport aux bienfaits du sport, en fait. Et donc je pense que ça a bien évolué. Et en fait, dans les années 1990, moi j'ai assisté dans nos villages. Tu vois, la kermesse, bah, tu avais des attractions, mais tu avais aussi. On traçait un terrain de foot dans un champ. Et moi, j'ai vu ma maman jouer au foot. C'était une fois par an. Et donc, ils traçaient et on jouait. Donc, on coupait les chardons et on mettait des goals. Il y avait un match d'hommes, il y avait un match de plus jeunes et il y avait un match de femmes. Et moi, maintenant, après autant d'années, quand j'y repense, je dis finalement, les hommes, ils étaient là, ils trouvaient ça comique. C'était une attraction de voir leurs femmes jouer, tu vois.
Je pense une chose, que les femmes feraient mieux de jouer de la pâte à poussière et un petit peu de tricotage.
Non, moi, personnellement, je ne vois pas ma femme faire ça. Je préfère qu'elle reste à sa... Je la vois mieux dans sa cuisine.
Alors moi, les femmes, je les aime mieux ailleurs que sur un terrain de football.
On a la chance aussi de voir comment évoluent les relations entre les hommes et les femmes et comment on fait hein, avec les parents. Donc je pense que ça, c'est une chance aussi d'évoluer avec sa génération.
Ouais, oui, bien sûr.
Oui, on sent vraiment la mentalité de l'époque. Parce que c'est plus qu'une personne, c'est vraiment une mentalité de l'époque. Mmh. Et effectivement, t'as encore des personnes parfois aujourd'hui qui ont fait des copier-coller, comme tu dis, d'une éducation d'il y a 100 ans, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays. Maintenant, c'est à nous de déconstruire. Et le sport est un merveilleux vecteur de déconstruction tous ces préjugés de l'époque. Parce que justement, en fait, une fois que tu joues, tu oublies complètement la barrière des genres.
Oui, et puis t'es toi-même. Je pense que moi, ma sœur, elle a suivi le parcours idéal, selon elle, que mes parents auraient voulu. Et moi, je suis complètement à côté de leur ligne, hein, au-delà de leur idée. Mais après, ils ont vu que j'étais heureuse dans ce que je faisais. Et récemment, j'ai entendu, pas avec mon papa, parce que mon papa n'est pas dans un modèle communication, hein, parent-enfant, comme maintenant. Mais il a toujours dit à ses copains, si elle le fait, elle doit le faire à fond. Mais je l'ai entendu là maintenant, tu vois, donc 30 ans après.
Le jeu a vraiment fait beaucoup partie de ma vie dès le plus jeune âge. Et donc c'est vraiment avec mon papa et surtout aussi avec mes frères quoi, que j'ai commencé comme ça, à jouer beaucoup. Et puis j'ai vu Steffi Graf à la télévision, à Roland-Garros. Et, parce que c'est vrai que Roland-Garros, ça rentre dans toutes les familles en fait. Hein,
oui.
Et c'est vrai que moi, il y a vraiment le bruit. Le bruit de la balle à la télévision à Roland-Garros, et je pense que c'est quelque chose qui restera ancré en moi toute ma vie. Quoi. J'entends encore les premiers sons de Roland-Garros. Bon, je suis née en plein Roland-Garros, je crois que c'est pas vraiment un hasard tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu Steffi à la télé et la découverte du tennis par mes frères. Et voir Steffi, son attitude, je sais pas, son élégance. Et je reviens toujours à cette petite fille. Quoi. Moi, je m'enfermais dans ma chambre, dans notre appartement familial. Et donc, je faisais comme Steffi Graf, quoi. Je jouais la finale de Roland-Garros et je me jetais sur le sol de ma chambre. Je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné le tournoi. Je faisais semblant de lever le trophée. Ma sœur faisait le rôle du journaliste. Elle me posait les questions, donc je répondais aux questions du journaliste. Et donc, je visualisais, en fait, beaucoup. Et c'est vrai que ouais, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer aux jeunes.
Justine Hénin qui refait les matchs de Roland-Garros dans sa chambre, qui joue Steffi Graf et qui se fait interviewer par sa sœur. Alors, les modèles, c'est important.
Si je devais commencer par un comparatif, quand on voit dans le domaine de la musique ou du cinéma d'autres domaines aussi, hein, mais le sport est vraiment un modèle populaire, très répandu, qui est un magnifique vecteur de projection de la jeunesse. Parce que, justement, et chez les jeunes filles, je pense que c'est fondamental. Et aussi, je crois que le pratiquer, donc à partir du moment, admettons, prenons une jeune fille fictive, mais à partir du moment où elle voit un match de donc Steffi Graf ou un match de football, le fait de pouvoir elle-même exercer ce sport facilement, on sort complètement justement du modèle de la Starac ou bien sûr on peut chanter dans sa douche, mais je veux dire on n'est pas tout de suite, on ne doit pas être sélectionné tout de suite. En fait, la personne se rend compte directement en pratiquant les efforts petit à petit qu'il va falloir faire pour arriver à un tel niveau. Donc elle peut réaliser assez rapidement des progrès. C'est pour ça que les académies, que les clubs qui poussent les jeunes filles vers le sport, vers la compétition, vont leur permettre de pratiquer directement selon leur modèle et dès lors de pouvoir... Le but n'est pas de faire des championnes, simplement de pouvoir pratiquer du sport et d'être aussi combative qu'un garçon. Et je pense que, et ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, que le sport est très très sain pour leur corps aussi. Et donc... quel que soit le métier qu'elles choisiront plus tard, je pense que ça va vraiment les aider.
Alors, contrairement à beaucoup, j'ai pas eu de modèle. Donc, de nouveau, j'étais occupée moi-même dans ma vie avec toutes mes activités, mais j'ai pas forcément de poster de footballeur, mais c'était vraiment de divers footballeurs. Donc, c'est pour ça que les modèles, je l'ai fait moi-même. En même temps, il en existait pas dans le foot féminin parce qu'elles passaient pas à la TV. Moi, j'ai su que l'équipe nationale belge existait seulement quand j'avais 16 ans. Donc, elles sont venues jouer à Bastogne. C'était dans la Gazette. Ma maman dit, tu vas aller voir. Ben oui, on va aller voir.
C'est vrai. Et plus il y a de modèles, plus de jeunes filles pourront s'identifier à des personnes différentes. Il n'y a pas qu'un seul modèle.
Oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'idée d'un coup de kick, quoi. C'est possible. Il y en a. Ça existe. C'est possible. Je peux aussi le faire.
Complètement. Ouais. Et on voit d'ailleurs, que ce soit dans les médias, style télévision, en radio, et même dans les réseaux, et surtout maintenant dans les réseaux sociaux, au travers des réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a énormément de... Il y a vraiment une pluralité de modèles et que justement, grâce à ça, elles vont pouvoir se diriger selon leur penchant vers telle discipline ou telle autre et, ou pas faire du tout de sport de compétition. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est d'être bien à chaque moment de leur vie, bien sûr.
Ouais, et c'est pour ça donc, que je reviens sur mon livre. On en parle dans mon livre. On parle de ma carrière, mais aussi de tous les stéréotypes ou tous les préjugés ou toutes les barrières que j'ai eues aussi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de mes choix de vie, tu vois, dans mes couples. Et ça a aidé énormément de parents, mais ça a aussi aidé énormément de jeunes filles. J'ai beaucoup de parents qui m'ont téléphoné après, est-ce qu'on peut se voir une fois pour guider ma fille? Je dis, il n'y a pas de problème.
Alors, on connaît mal les premières sportives belges, hein, on les a souvent oubliées. Je vous propose donc à présent d'écouter Rose, 15 ans, qui va nous présenter une de nos grandes sportives belges. Hélène Dutrieux.
La bulle de rose, la bulle de rose, la bulle de rose, la bulle de rose. Hélène Dutrieux est née à Tournai en 1877 et morte le 26 juin 1961 à Paris. Elle a été championne du monde en cyclisme et première aviatrice belge. C'était une passionnée touche-à-tout, elle n'avait peur de rien. Elle a aussi fait de la moto et elle a été coureuse automobile. Fille d'un officier de l'armée belge, elle quitte l'école à 14 ans et commence à gagner sa vie. En 1895, elle participe aux premières courses cyclistes ouvertes aux femmes, sur vélodrome uniquement, qui se déroulent dans sa ville de Tournai. Devenue coureuse professionnelle, elle va remporter énormément de courses, dont le championnat de vitesse sur piste d'Ostende. On la surnommera la Flèche humaine. En novembre 1898, elle gagne la course de 12 jours à Londres et sera décorée de la Croix de Saint-André par le roi Léopold II. Mais aimant le risque et la nouveauté, elle va ensuite s'essayer à des acrobaties en vélo, puis en moto et puis en voiture. Son spectacle remporte un grand succès et la fait connaître à l'étranger. Mais elle ne va pas s'arrêter là. À 31 ans, elle obtient son brevet de pilote et devient la première aviatrice belge et la deuxième aviatrice européenne. Ce n'est pas rien. Elle remportera beaucoup de compétitions. Le 2 septembre 1910, selon Air Journal, elle effectuera Ostende-Bruges en 20 minutes et contourne le beffroi de la ville à environ 400 mètres d'altitude avec un passager battant tous les records féminins. Quelques mois plus tard, Hélène Dutrieux, à bord de son biplan Henri Farman, remportera la coupe Femina du record féminin du plus long vol dans l'année, d'un autre point de vue de la durée, en couvrant plus de 167 km en 2h35 minutes. Et d'autres records suivront. En 1913, elle devient la première femme aviatrice à recevoir la Légion d'honneur. Elle reçoit encore, en 1953, la médaille de l'aéronautique et crée en 1956 un prix franco-belge destiné à récompenser une femme pilote effectuant seule un vol de longue distance sans escale. Elle meurt en 1961 à 83 ans à Paris. Sacrée sportive, non ?
J'adore la flèche humaine.
Oui, la flèche humaine.
Voilà, est-ce que vous connaissiez Hélène Dutrieux ?
Non.
Un tout petit peu.
Ah oui, ben moi j'avais jamais entendu parler d'elle.
J'avais vu des photos.
Et elle est très très belle, c'est une belle femme. Mmh. Elle a l'air de quand on lit des choses sur elle, vraiment, elle avait l'air d'avoir un caractère de fou là.
Mais c'était une cascadeuse.
Hein. Ouais, oui, une cascadeuse. Et ce qui est génial, c'est que elle avait toujours envie d'essayer des nouvelles disciplines, parce qu'elle est quand même passée du vélo à la moto, puis la voiture, et puis l'avion, quoi. Enfin, je veux dire.
Mais son frère était champion cycliste aussi, et donc elle a été mise en selle comme ça. Elle a suivi ses frères. Et puis après, elle les a bien dépassés. Et quand elle a eu l'opportunité de piloter un avion, c'était extraordinaire.
Mais c'est une dynamique qu'on retrouve souvent dans plusieurs... Par exemple, le fait qu'il y ait des hommes dans l'entourage qui emmènent. Alors, c'est souvent les frères, parfois c'est le père. Mais le fait d'avoir accès à la chose permet de rendre la chose possible.
Oui, on voit souvent, effectivement, soit les frères, soit le père qui n'a pas eu de fils,
oui.
Qui projette parfois son désir de victoire ou même l'envie d'apprendre à son enfant, quel que soit le sexe, son métier ou sa puissance, et ça, c'est génial.
Mais je trouve que c'est vraiment important de dire ça, parce qu'en fait, ça passe aussi vraiment par les pères, par les hommes, et donc le fait de se dire, justement, de sortir des formats et de dire, voilà, c'est possible, tu peux sortir des formats. Et je vais vous raconter une anecdote, ça n'a rien à voir, mais moi ça m'a vachement portée. Donc c'est un livre d'Henri Beauchaud sur Antigone. Et donc c'est Antigone qui est au bord d'un grand lac. Et elle est avec ses frères. Et ses frères font des ricochets. Et donc elle aimerait bien faire des ricochets. Et donc à maman, elle va demander à sa mère, « Maman, est-ce que je peux faire des ricochets ? Comme mes frères, est-ce que je peux faire des ricochets ?» Et puis sa mère lui dit, « Mais... pourquoi est-ce que tu me demandes mon avis ? Donne-toi la possibilité de choisir toi-même. Si tu veux faire des ricochets, fais des ricochets. »
Mais si, on est capable de jouer au football. Peut-être qu'on ne joue pas exactement le même football que celui des hommes.
Vrai,
mais c'est peut-être une façon de jouer au football. Il faut quand même ouvrir les yeux. Moi, j'ai un gamin qui est encore au collège. Ben, au collège, je l'ai interrogé. Il me dit, les filles jouent avec nous au foot. Bien c'est-à-dire sûr. Que tout le monde joue ensemble. C'est-à-dire que c'est une réalité nouvelle qui est arrivée.
Non, c'est pas...
Mais c'est tant mieux. Pourquoi les filles ne joueraient pas au foot
madame.
Que ça fasse évoluer le football. Mais attendez, cher monsieur... Le football lui-même a évolué, c'est-à-dire qu'on ne joue pas aujourd'hui au football comme on jouait au football en 1940, 1950. J'ai un mari qui est extrêmement amateur de football, qui me raconte l'histoire du football. Moi, je ne suis pas amateur. Mais ce que je sais, c'est que le football, il évolue en fonction de...
Des considérations techniques, tactiques...
Et donc là, en l'occurrence, les femmes vont introduire une autre façon de jouer au football. Et c'est tant mieux que les femmes peuvent...
Il y a une chercheuse, justement, Aïna Chalabev, qui parle d'un mécanisme de la menace du stéréotype. Et en fait, l'idée, c'est plus on te dit, avant de faire quoi que ce soit, on te dit que tu ne pourras pas le faire, que tu n'y arriveras pas, que tu n'auras pas la force de le faire, plus tu as de chances de te planter. À l'inverse, si on te dit, mais bien sûr, tu vas y arriver, tu peux faire des ricochets comme tes frères, si tu le veux, vas-y, eh bien, elle aura plus de chances d'y arriver. Et donc, quand on parle de modèle, mais quand on parle aussi d'éducation à travers les parents, ça part du même processus. En fait, tu peux y arriver, et pourquoi pas, en tant que femme, vas-y, monte dans un avion, vas-y, fais une course cycliste, joue du foot.
Donc, c'est important, l'entourage. Donc vous avez été, Aline, encouragée vraiment par votre père, vos frères?
Non, pas mon papa. Donc comme j'ai dit, c'est un grand travailleur, donc je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il enchaînait les plusieurs jobs. Mais mes cousins et le frère de mon papa était 10 ans plus jeune que lui, donc c'est plus avec lui que j'avais des liens. Il était aussi footballeur et on jouait beaucoup au tennis, donc de nouveau, si c'était pas le foot, ça aurait été le tennis. Je pense que quand t'as beaucoup d'habilité, encore maintenant, je peux toucher à tous les sports et ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est...
Et c'est vers quel âge ça s'est dessiné vraiment que...
À 6 ans, parce que j'ai commencé à jouer au tennis vers 10-15 ans, mais voilà... pas régulièrement, parce que déjà il fallait chaque fois louer un terrain, ça coûtait de l'argent, tandis que mon terrain de foot, je prenais mon vélo et j'y étais, ça coûtait rien, il n'y avait pas de barrière, on n'était pas non plus des hooligans, donc on voulait juste jouer. Donc voilà, c'est pour ça que le football, c'est un sport populaire et accessible à tout le monde. Quand j'ai travaillé pour la Fédé en 2014 pour le développer, ben, c'était le mot d'ordre, c'était rendre le foot féminin accessible à toutes, que la porte dans les clubs soit accessible et que les coordinateurs... Ne disent pas, ben non, t'es une fille. Voilà, cette phrase-là était très embêtante.
Vous savez, les mots ont un sens.
Oui, absolument, c'est du football.
Le football.
Les femmes jouent au football,
non,
ça vous déplaît,
jouent pas
mais
au
c'est
football.
Comme ça.
Je m'appelle Thalia Culot, j'ai actuellement 16 ans. Je suis championne du monde en moins de 16 ans et 4 fois championne d'Europe. 2 fois championne de Belgique et 2 fois médaillée de bronze au championnat du monde IFMA.
Championne du monde de Muay Thai ou de Boxe Thai, rien que ça pour la jeune Thalia du team Buonopane et de Chapelle-Lerlemont. Et Thalia est devenue la meilleure du monde grâce à son travail.
Beaucoup d'entraînement, je m'entraîne tous les jours à part le jeudi. Et le week-end, c'est le combat.
Une combattante offensive et volontaire qui fait la grande fierté de son coach.
Pour moi, efficace, riche en technique, volontaire. Elle sait se faire mal. Dans le sport de combat, c'est malheureusement, ben, il faut y aller. Si on ne dépasse pas la douleur, ben, on n'y arrive forcément pas.
On va y venir maintenant justement à cette rigueur de l'entraînement, de la discipline et des conditions nécessaires pour être une sportive de haut niveau. Alors comment ça se passe concrètement? Quelle est la discipline quotidienne? La fréquence d'entraînement, j'imagine, c'est tous les jours.
Ben donc, comme j'ai dit, dans les dernières années, quand on était Red Flame, c'est pour se qualifier à l'Euro, c'était entraînement donc 4 fois semaine le soir, donc en club. Donc j'étais à l'époque au Standard, donc c'était entraînement de 19h à 21h. Et puis après, tu enchaînes, hein, tu rentres qu'il est 23h, et puis le lendemain, t'es au taquet à 6h au matin, en sachant que ton sac est déjà fait pour pouvoir enchaîner après ton boulot. Parce que la difficulté, c'est, comme on disait tout à l'heure, la motivation de s'entraîner, c'est si ton boulot, tu t'arrêtes à 4 heures et de 4 à 19, ben, tu repasses à la maison, tu requittes plus, quoi. Donc, t'as difficile. Donc, moi, je commençais un peu plus tard le boulot et puis j'enchaînais où je travaillais plus, de manière à rester dans le flow. Et ça, j'ai fait ça pendant les 15 ans et c'est comme ça que c'est assez motivant. Mais beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Tu sais, il faut avoir des épaules. Hein. On dit, t'as fait une fameuse carrière. Et je dis, oui, mais si j'avais pas les épaules, comment le caractère, on revient toujours à moi. Ma carrière, elle est faite sur le caractère. Après, j'avais le talent, mais quand t'as les deux, bah, t'arrives à faire une carrière comme ça. Mais faut avoir la tête bien sur les épaules, ouais.
Aujourd'hui, on a des formations de plus en plus conséquentes qui se mettent en place pour les filles, mais il n'en était rien hier. Alors, j'ai envie de vous parler à présent d'une sportive belge, bien de chez nous, complètement autodidacte et que le grand public méconnaît.
Hierover mijn klap, nou, op het moment zal niet zeker. Ik ben Yvonne Reinders en ik ben 4-maal wereldkampioen.
Personne ne la connaît ou presque, on a oublié son nom et il est là le problème. Bien avant Eddy Merckx, la Belgique a connu un autre grand champion à vélo. Ce champion, c'est une championne et c'est Yvonne Reinders. Rendez-vous compte, Yvonne a été sacrée 7 fois championne du monde et 11 fois médaillée d'or en Belgique.
Il y avait un policier à moto qui criait « Il y a une Belge en tête !»
Un Belge en tête.
Moi, je me suis dit, oui, pour le moment, mais jamais à l'arrivée. Les autres vont certainement me rattraper. Surtout que moi, je n'entendais que le cliquetis des chaînes des autres coureuses. Pour moi, elles se rapprochaient. Et puis j'ai commencé à y croire et je suis devenue championne du monde.
Yvonne Reinders est une cycliste belge, née le 4 août 1937 à Schaerbeek. Avec la Britannique Beryl Burton, elle a été une des plus grandes cyclistes féminines des années 60. Et pourtant, on ne connaît pas très très bien son nom, c'est ça qui est complètement paradoxal. Yvonne vient d'un milieu populaire. Elle transportait des sacs de charbon de 10 kilos pièces en triporteur et elle avait une force mais vraiment impressionnante. Un jour, elle a entendu qu'on organisait une course de vélo pour femmes et donc elle y est allée pour voir. Bon, c'était pas fort bien vu à l'époque parce que en fait, c'était complètement illégal. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de vélo. Donc son voisin lui a prêté son vélo et elle a gagné la course. Comme elle n'avait pas les moyens de s'offrir un vélo, elle l'a donc fabriqué elle-même avec des vélos divers et variés qu'elle trouvait sur des brocantes. Elle n'avait pas de très bon rapport avec son père, mais c'est quand même grâce à lui qu'elle a pu participer à des courses illégales. En 1958, a lieu le premier championnat de cyclisme féminin en France et Yvonne est sur la piste. D'ailleurs, elle y croisera une autre cycliste belge qui fait des flammes, Victoire Van Niffel. Les Belges sont donc dans la place. Et en 1959, Yvonne Renders devient championne du monde sur route. Par la suite, elle remportera plus de 12 médailles internationales et encore de nombreuses médailles en Belgique. Et ce qui est fou, c'est qu'elle explique lors d'une de ses interviews, en fait, qu'elle ne gagnait jamais d'argent lors de ses concours. Alors que dans les concours amateurs masculins, eh bien, ils gagnaient quand même toujours une petite somme d'argent. Mais pour les femmes, que ce soit en amateur ou en professionnel, entre guillemets, les femmes étaient payées en nappe, en service à café, en vase. Enfin voilà, c'était... En même temps, si on réfléchit, aujourd'hui encore, beaucoup de sportives sont obligées d'avoir un deuxième métier pour pouvoir exercer leur carrière en professionnel. Et donc c'est vrai que les choses ont changé, elles se sont améliorées, mais on n'est plus payé en nappe, ni en service à café. Mais enfin, ça pose quand même toujours cette question des moyens qu'on se donne. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième partie de ce podcast sur les lionnes et le sport.
En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup toutes les deux d'avoir participé à ce podcast. Et puis, je vous souhaite une toute bonne journée. Au revoir.